France Inter, 7h30. Merci de nous rejoindre. Pour le journal de Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des stages incendies en banlieue pour les habitants des tours HLM. Une initiative lancée par la Seine-Saint-Denis, frappée Noël dernier par un terrible accident à Bobigny. Reportage à suivre en début de journal. Il est le premier de la majorité à dégainer. Mounir Majoubi, candidat officiel à la mairie de Paris. Analyse du service politique. Dans l'actualité également, les premières fissures autour du clan Bouteflika en Algérie. De quoi conforter les manifestants à la veille d'une grande journée de mobilisation. Le PSG, une nouvelle fois humilié en Ligue des Champions, battu 3-1 par Manchester United. Et en fin de journal, on découvrira la plus grande collection en ligne de documents scientifiques grâce à une application Google.
Et je vous rappelle que le directeur de campagne de la liste LREM pour les élections européennes, ex-conseiller du président de la République, Stéphane Séjourné, est l'invité d'Alexandra Ben Saïd, dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Quand les pompiers de Paris, Sébastien, se déplacent en Seine-Saint-Denis pour apprendre les gestes qui sauvent.
C'est une première en France, une formation incendie pour des locataires HLM. Un atelier de 45 minutes afin d'éviter des drames comme celui de Bobigny en décembre dernier, où le feu dans un appartement de la cité Paul-Éluard s'était propagé à plusieurs étages, tuant notamment une mère de famille et ses deux fillettes. Alors quels sont les risques en cas de départ de feu, les gestes de base? Un camion avec à son bord un ancien pompier de Paris. Paris va donc se déplacer pendant 3 mois dans une vingtaine de cités du département. Première étape hier au Lila, reportage de Mathilde Dehimi.
La scène laisse les locataires sans voix. En quelques minutes, le feu s'est propagé du deuxième étage à l'ensemble des balcons d'une tour de Roubaix. Marc, le formateur, arrête la vidéo.
Alors qu'est-ce qui se passe? Un mégot qui est jeté par la fenêtre.
Il était sur le balcon du voisin qui n'est pas là, il met le feu.
Comme on a pris un balcon pour un lieu de stockage, où on a mis des cartons, des vieux meubles, on a mis peut-être des tapis, oui, des
balcons surchargés, cigarettes jetées par la fenêtre. Les 6 locataires prennent conscience de tous les mauvais gestes du quotidien.
Quand on a fini d'utiliser son chargeur de téléphone, eh ben on le débranche.
Beaucoup ont en tête l'incendie de Bobigny à Noël, 4 morts, asphyxiés en prenant l'ascenseur.
Le feu brûle, les fumées tuent.
Alors on révise consciencieusement les consignes d'évacuation.
J'ai le feu plus important dans une chambre et c'est chez moi. Qu'est-ce que je fais?
On ferme toutes les fenêtres, on sort.
On sort de l'appartement et on referme sa porte de l'appartement. Pour éviter quoi? La propagation dans la voie de circulation qui est le palier. Vous me prévenez les pompiers et vous tapez aux portes des voisins pour prévenir de la situation.
Ne sortir que si le feu est au-dessus de son appartement, sinon attendre, enfermer les pompiers, des conseils qui ont fait du bien à Sadia qui habite au 15e.
J'y pense toujours, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai l'angoisse.
Des conseils qu'elle s'empressera de répéter à ses voisins, tout en vérifiant que cette fois les portes coupe-feu sont bien dégagées dans les couloirs.
Reportage de Mathilde Dehimi, 70 000 incendies se déclarent chaque année en France, causant la mort de 200 à 300 personnes.
Et on franchit le périph' pour revenir à Paris où la bataille fait rage à un an des municipales.
Le premier candidat d'En Marche vient de se déclarer. Mounir Majoubi ouvre le bal ce matin dans les colonnes du Parisien. Le secrétaire d'État au numérique annonce sa candidature pour l'élection de 2020. Majoubi qui grille ainsi la priorité à d'autres prétendants, comme le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui se prépare pourtant activement depuis un an. Karine Bécard.
Cette fois, la guerre est déclarée ouvertement entre 2 ministres du gouvernement. Mounir Majoubi, qui est donc à compter d'aujourd'hui officiellement candidat à l'investiture de La République En Marche pour la prochaine municipale à Paris, et Benjamin Griveaux, qui a affiché ses ambitions parisiennes très tôt, mais qui n'a jamais vraiment réussi à fédérer les élus de la majorité derrière lui. Ce qui permet à Mounir Majoubi de se lancer et d'afficher pour Paris ses premières priorités, en direction du logement notamment. Le secrétaire d'État au numérique rêve, comme il l'explique ce matin dans la presse, à la création d'un fonds alimenté par des citoyens parisiens qui voudraient aider les sans-abri à se loger et à se réinsérer. Bref, cette première candidature pourrait surtout en réveiller quelques autres, celle du député chiracien Hugues Ranson ou plus encore celle du député mathématicien Cédric Villani qui se montre terriblement déterminé, qui est soutenu par de nombreux parlementaires de la majorité, tous ceux en réalité qui aimeraient bien faire la peau de l'ancien strauss-kahnien Benjamin Griveaux.
Karine Bécard, chez les Républicains, c'est la liste aux élections européennes qui concentrait les inquiétudes. Finalement, Laurent Wauquiez a donné hier les noms des 20 candidats. Dans l'ordre, contrairement à ce qu'il avait annoncé, Nadine Morano, Brice Hortefeux et Frédéric Pechenard, les soutiens historiques de Nicolas Sarkozy se retrouvent ainsi en bonne place pour être investis. Le président, lui, va faire du RAB son Tour de France dans le cadre du Grand Débat. Devait prendre fin la semaine prochaine, le 15 mars, mais Emmanuel Macron veut malgré tout poursuivre jusqu'à la fin mars, début avril. Le chef de l'État avait en effet promis de rencontrer les maires de toutes les régions de France. Il se rendra prochainement en Corse, en Pays de la Loire, en Bretagne et recevra ensuite les élus des Hauts-de-France à Paris. Aujourd'hui, nouvelle étape présidentielle dans le sud-est, dans le petit village de Gréoux-les-Bains, avec au programme un débat axé autour de la transition écologique. Les surveillants pénitentiaires maintiennent la pression sur le gouvernement. Deux jours après l'attaque terroriste de Michael Kiolo à la prison de Condé-sur-Sarthe, de nouveaux appels au débrayage lancés pour ce matin, notamment à la prison parisienne de la Santé. Les syndicats qui posent une autre question. Y a-t-il eu une défaillance dans le suivi de ce détenu radicalisé? Selon Thierry Cordelette, délégué régional du syndicat UFAP en Bourgogne-Franche-Comté, il avait déjà fait parler de lui en 2016 à la maison d'arrêt de Besançon. Michael Kiolo avait proféré des menaces contre un surveillant lors d'une conversation téléphonique placée sur écoute.
Dans le cadre d'une conversation téléphonique avec sa compagne, celle qui l'a accompagné dans son périple, il indiquait alors à l'époque qu'il voulait égorger un surveillant au nom d'Allah. Tout de suite, la hiérarchie a rendu compte des propos tenus à l'administration pénitentiaire. Mais on se rend compte que très rapidement, une fois le détenu transféré ailleurs, il n'y a pas de suivi. Ce cas-là, il est d'actualité, mais on pourra en citer plein d'autres où les personnels pénitentiaires font un excellent travail d'observation et d'évaluation et rendent compte à la hiérarchie. Et au plus haut niveau de cette administration, on est dans la politique de l'excuse ou dans le laxisme total. Et au nom de l'oubli et du pardon, on tourne la page et on continue de gérer ces détenus-là, ces personnes-là, comme des détenus de droit commun. Comment un individu comme celui-là peut se retrouver autorisé à aller à une unité de vie familiale?
Voilà, Thierry Cordelette de l'UFAP avec Laurélie Carive.
7h37, direction l'Algérie maintenant, où le camp Bouteflika se fissure.
Dans un communiqué, la puissante Organisation Nationale des Moudjahidines a apporté un soutien inattendu à la contestation. L'ONM regroupe les anciens combattants de la guerre d'indépendance, traditionnel soutien d'Abdelaziz Bouteflika. Voilà qui devrait encore encourager les manifestants qui se préparent demain à une grosse journée de rassemblement comme chaque vendredi depuis 3 semaines. Zoom ce matin sur la mobilisation des artistes algériens dont les chansons accompagnent aujourd'hui le mouvement. Le reportage à Alger de Leïla Berato.
Après les premières manifestations, Aziz Hamdi, 28 ans, croise le chanteur Amin Chibane. Les deux jeunes hommes avaient commencé à composer chacun de leur côté, inspirés par le mouvement. Ils mettent leur travail en commun et invitent d'autres artistes à les rejoindre.
On a senti que tout le monde était prêt. Tout le monde a eu déjà cette idée de faire quelque chose, mais ne savait pas comment commencer, comment entamer. Et dès qu'il y a eu cette volonté qui a été déjà mise en place, rapidement, elle a été rejointe par tout le monde. Elle a été produite dans un bon record.
La chanson Youm El Shab, aujourd'hui le peuple, est mise en ligne le 1er mars. La semaine suivante, Adila Bendi Merad, 34 ans, actrice et productrice, lance un appel à un rassemblement des artistes.
Au départ, il s'agissait de faire une réunion un peu pour discuter dans un endroit fermé avec les artistes. Et puis, ayant moi-même depuis des années travaillé au théâtre de rue, je me suis dit, non, en fait, c'est dans la rue, parce que si la constitution est bafouée et que le pouvoir est en train de semer le désordre, il faut qu'on occupe un espace démocratique, en tout cas qu'on le crée. Et cet espace démocratique, il est dans la rue.
À l'issue de la réunion, plusieurs personnes ont décidé d'organiser des performances artistiques pendant la grande manifestation de ce vendredi. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
À qui appartient, ou plutôt appartenait, la voiture la plus chère du monde? La réponse sera donnée cet après-midi par le tribunal correctionnel de Guéret. La justice doit trancher une singulière histoire d'héritage. Il s'agit d'une Ferrari 250 GTO vendue 38 millions d'euros en 2013, record record mondial à l'époque pour cette voiture construite à 3 exemplaires, une des pièces de l'incroyable collection de Pierre Bardinon, industriel et amateur avisé. Après sa mort, l'un de ses fils avait revendu cette voiture aux enchères, mais son frère et sa sœur réclament leur part de l'héritage. Olivier Estran.
Patrick Bardinon encourt 8 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. C'est la peine réclamée par le procureur. Son frère, Jean-François, et sa sœur Anne ne lui pardonnent pas d'avoir sorti en toute discrétion cette voiture de la collection familiale. Une pièce rarissime, surnommée dans le milieu la Joconde des Ferrari. Patrick plaide la bonne foi. Il explique que son père lui a donné cette voiture de son vivant. Pour preuve, la carte grise est à son nom. 2 jours de procès, 20 de témoins pour confirmer ou contredire cette donation, car pour la justice, une carte grise n'est pas un acte de propriété. Peu d'espoir pour le frère et la sœur de revoir la voiture. Elle a été vendue à un richissime acheteur taïwanais, mais ils réclament leur part de la vente. Le jugement du tribunal donnera une première réponse sur le devenir de cet incroyable héritage. La plus belle collection de Ferrari au monde dort paisiblement près d'Aubusson. 30 de voitures pour un montant de 200 millions d'euros placés sous séquestre pour l'instant. Olivier Estran, France Bleu Creuse pour France Inter.
Et pour terminer, Sébastien, cette application qui fait entrer la culture scientifique dans votre téléphone portable.
Elle s'appelle Once Upon a Try. C'est le nouveau projet de Google Art et Culture en partenariat avec 100 d'institutions dans le monde grâce à la numérisation de 220 000 documents scientifiques, à des visites virtuelles, des vues à 360 degrés. L'application propose un voyage au cœur des découvertes et des innovations. Les explications de Sophie Becherel.
Qui a inventé la machine à coudre? Comment le circuit d'eau de Versailles a-t-il été conçu? À quoi ressemble un accélérateur de particules souterrain? À toutes ces questions, un moteur de recherche peut répondre, un musée aussi, parfois. Ce que propose l'application Google Art et Culture, c'est un condensé des deux. Sixtine Fabre, en charge de la partie française.
La mission de Google Art et Culture, c'est de démocratiser l'accès au contenu culturel et de fournir des outils dédiés. Les outils numériques sont une vraie opportunité de pouvoir parler au plus grand nombre.
Renaud Wynne, qui dirige le musée Curie à Paris et de cet avis. Certes, il dispose d'un lieu pour exposer son fonds documentaire, mais il n'est pas possible de tout montrer au public.
On a aussi beaucoup de documents qui sont enfermés dans des boîtes, qui sont conservés parce qu'il y a des problèmes de fragilité de ces documents, et c'est ce que permet toutes les technologies numériques, de numériser ces documents et de les montrer au public. Et ce partenariat avec Google nous permet d'avoir une dimension internationale et puis de s'approprier des outils qu'on n'est pas capable de développer nous-mêmes.
L'Institut national de la propriété intellectuelle n'a pas de musée. Cette application lui permet donc de dévoiler ses trésors cachés. Valérie Marchal, responsable des archives.
On a sélectionné 200 brevets déposés par Pasteur, mais aussi des grands noms de l'industrie française comme Vuitton, Guerlain. Et puis de très très jolies choses, parce qu'au 19e siècle, les gens avaient à cœur de remettre de beaux brevets avec des belles planches, de la couleur.
Éclectique, à l'image de cette plateforme, véritable musée virtuel des inventions humaines.
Sophie Becherel, spécialiste scientifique et application téléphonique, ça s'appelle Once Upon a Try.
Merci Sébastien Legénie.